19h30, temps universel. Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Bonsoir l'Afrique, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur les ondes de la Voix de l'Amérique, Le Monde Aujourd'hui, édition du vendredi 15 août 2014, en direct du studio 13 à Washington, au micro Morgane Guiriec et Bagassi Koura. Bonsoir Bagassi.
Oui, bonsoir Morgane, bonsoir à tous.
Au sommaire ce soir, une centaine de personnes ont été enlevées dans le nord du Nigeria.
L'épidémie d'Ebola a été largement sous-évaluée. Constat de l'Organisation mondiale de la santé qui s'inquiète de l'insuffisance des moyens mis en œuvre.
Au Sénégal, l'étudiant Bassirou Faye est mort hier suite à des affrontements avec les forces de l'ordre.
Il a reçu une balle au niveau de la nuque. Il est tombé. Après, on l'a amené au service médical du coude, le centre des œuvres universitaires de Dakar. Après, on l'a évacué au niveau de l'hôpital principal où il a rendu l'âme.
Retour ce soir aussi sur les inondations au Niger.
Et comme toujours en fin d'émission, nos pages sport et musique, mais avant le journal.
Une épidémie largement sous-évaluée qui se répand plus vite que la capacité actuellement mise en œuvre pour y faire face, c'est le constat dressé par l'Organisation mondiale de la santé qui parle d'une totale défaillance des infrastructures. La directrice de Médecins sans frontières, Joanne Louis, estime pour sa part que l'épidémie de fièvre Ebola se répand et se détériore plus vite que notre capacité à y faire face.
Ajoutons que sur demande de l'OMS et des gouvernements concernés, le Programme alimentaire mondial va étendre ses interventions à 1 million de personnes en Sierra Leone, au Liberia et en Guinée pour prévenir une crise alimentaire dans ces pays touchés par l'épidémie d'Ebola. L'épidémie qui sévit dans 4 États d'Afrique de l'Ouest a fait plus de 1000 morts selon l'OMS.
Des hommes armés soupçonnés d'appartenir à la milice islamiste Boko Haram ont enlevé environ une centaine d'hommes et de garçons dans un village isolé du nord du Nigeria, Michel Joseph.
Selon des témoins, les miliciens ont attaqué le village de Dorno Baga dans l'état de Borno dimanche dernier et ont tué plusieurs personnes avant d'embarquer leurs victimes à bord de camions. Depuis cette région reculée du Nigeria, où la couverture de réseaux téléphoniques est faible, des survivants ont fui jusqu'à Maïdougouri, chef-lieu de l'État de Borno. Sur place, ils ont informé la presse de ces raids commis par des islamistes présumés de Boko Haram. Au début, nous avons cru que c'était des militaires, mais quand ils ont commencé à tirer sur des gens et à incendier les maisons, alors nous avons compris que c'était Boko Haram, a expliqué à l'agence France-Presse Al-Hadji Adam, qui a été témoin de l'attaque. Les otages ont été emmenés, selon elle, de force sur des bateaux à moteur jusqu'au Tchad et l'on redoute qu'ils ne soient enrôlés de force par Boko Haram.
Au Sénégal, un violent affrontement entre étudiants et forces de l'ordre a occasionné hier la mort d'un jeune de 22 ans à l'université Cheikhanta Diop de Dakar. Bassirou Faye, étudiant en première année de la faculté de sciences, réclamait, comme les autres, le paiement des bourses attendues depuis 12 mois. Lola Komachri a joint à Dakar Amadou Sabarba, un étudiant master en journalisme qui a été témoin de la fusillade.
Lors de ces affrontements, il y a eu mort d'homme, d'un étudiant de la faculté des sciences. Il a reçu une balle au niveau de la nuque. Il est tombé. Après, on l'a amené au service médical du coude, le centre des œuvres universitaires de Dakar. Après, on l'a évacué au niveau de l'hôpital principal où il a rendu l'âme.
Et nous avons également appris qu'aujourd'hui, il y a eu une nouvelle manifestation des étudiants qui réclament la démission du ministre de l'Enseignement supérieur.
Hier, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a sorti un communiqué pour dire que les responsabilités de la mort de cet étudiant seront situées, ce que les étudiants n'ont pas du tout apprécié. Raison pour laquelle ce matin, au niveau du campus social de l'Université Cheikhanta Diop de Dakar, les étudiants se sont encore mobilisés pour manifester leur mécontentement. Actuellement, à l'Université Cheikhanta Diop de Dakar, il n'y a ni cours.
Mais dites-nous, Monsieur Amadou Sabarba, quelle a été la réaction des associations universitaires sur place face à l'usage des armes par les forces de l'ordre sur le campus?
Le SAES, le syndicat des enseignants de l'enseignement supérieur, a réagi lui aussi. Le SAES qui a toujours dénoncé même la présence des forces de l'ordre au niveau de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. L'association nationale des parents d'élèves aussi a réagi pour manifester aussi son mécontentement de tout ce qui s'est passé.
En RCA, les choses se compliquent pour la formation du nouveau gouvernement. Après les ex-Séléka, le groupe des partis politiques républicains, travaillistes et légalistes a annoncé ce vendredi son retrait du processus de formation du prochain gouvernement. Le point avec Félix Yepassis Zembrou.
Cette nouvelle contestation surgit alors que le futur gouvernement peine à se mettre en place. Pour le groupe des partis politiques républicains, travaillistes et légalistes, la plateforme regroupant le KNK, la mouvance Zokwezo et le mouvement pour la démocratie et le développement, Mahamat Kamoun, est proche de Michel Dotodia, donc proche de la Séléka. Mohamed Bengue Bossin, secrétaire général de la mouvance Zokwezo.
Cette plateforme a été reçue à la demande du chef de l'État mercredi dernier et le chef de l'État de transition nous a exposé les critères qui doivent présider à la nomination de ce nouveau premier ministre de transition, à savoir compétence, expérience, intégrité, capacité de rassembler, en précisant qu'il peut être musulman, mais pas Séléka. Malheureusement, il se trouve que Madame la Présidente a nommé notre frère Mamad Kamoun, qui est un haut cadre compétent, expérimenté du ministère des Finances, d'une part, et d'autre part, il se trouve qu'il a été le directeur de cabinet de notre frère Michel Dotodia, chef de la Séléka.
Par ailleurs, le calme est revenu à la sortie nord de Bangui, théâtre jeudi après-midi d'un violent accrochage entre ex-Séléka et anti-Balaka. Le bilan fait état d'au moins 4 blessés.
Des combats ont éclaté aujourd'hui à Mogadiscio entre les forces de sécurité somaliennes, appuyées par celles de l'Union africaine, et les fidèles d'un ancien chef de milice, Ahmed Hassan Addo, alias Ahmed Daï. Par ailleurs, une importante station de radio indépendante de Mogadiscio a été fermée par les autorités. On fait le point avec Jean-Roger Billon.
Ahmed Daï a dit à la Voix de l'Amérique que les combats ont éclaté lorsque les forces somaliennes ont mené un raid sur son domicile. Une vingtaine de personnes auraient été arrêtées, une quinzaine de fusils saisis dans une cache d'armes ainsi que des munitions. Selon des témoins et des responsables locaux, le bilan serait d'au moins 10 morts dans l'arrondissement de Ouadadji. Suite à ces affrontements, les forces somaliennes ont fermé Radio Chabel, une importante station indépendante de Mogadiscio. Un responsable des forces de sécurité a expliqué à l'agence France Presse que cette opération était due à une couverture négative pour le gouvernement du raid mené dans la matinée contre l'ancien chef de milice Ahmed Hassan Addo, qui a donné lieu à plusieurs heures d'intenses combats. Ils ont arrêté 20 membres du personnel, dont le directeur de la radio, a expliqué Mohamed Bachi, un employé de la radio.
Un quotidien a été fermé au Libéria et plusieurs de ses journalistes ont été battus et arrêtés par la police. Selon l'AFP, ils sont accusés d'avoir diffusé des informations portant atteinte à la sécurité de l'État. Cette fermeture n'a pas de lien avec l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola.
En République démocratique du Congo, un officier supérieur de l'armée est jugé depuis le début de la semaine pour des crimes contre l'humanité qu'il aurait commis ou laissé faire entre 2005 et 2007 dans l'est du pays. Le colonel Bedi Mobuli Angagela, qui en cours de carrière a déserté pour diriger une milice d'autodéfense Mai Mai, est poursuivi pour 14 chefs d'accusation, dont des crimes contre l'humanité qui auraient été perpétrés par lui-même ou par ses hommes, précise l'AFP.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Nouvelle journée de violence en Irak. Des djihadistes ont exécuté publiquement un muezzin et des policiers au nord de Bagdad. C'est dans ce contexte que les ministres européens des Affaires étrangères sont parvenus ce vendredi à une position commune sur la livraison d'armes aux combattants kurdes. Le point avec Camille Grosdidier.
Selon l'agence France Presse, qui cite des témoins et le chef de la police régionale, les insurgés sunnites de l'État islamique ont arrêté puis abattu un muezzin devant sa mosquée à Jalola, une ville dont ils se sont emparés lundi. Ces djihadistes ont également fait exploser le lieu de culte. Un peu plus au nord, à Sayed Ahmad, les combattants islamistes auraient exécuté 6 policiers, selon les mêmes sources, toujours citées par l'AFP. Face à l'offensive de l'État islamique, l'Union européenne a salué aujourd'hui la décision de certains pays membres de livrer des armes aux combattants kurdes. En revanche, la décision de les livrer reviendra à chaque État membre individuellement. Il n'est pas encore clair quels équipements sont utilisés et sont nécessaires, a fait valoir le ministre allemand des Affaires étrangères. Réunis en urgence à Bruxelles, les ministres européens des Affaires étrangères ont également appelé à la formation rapide d'un gouvernement d'union en Irak. Cette recommandation intervenait alors que Nouri al-Maliki, le Premier ministre sortant, a finalement accepté de céder le pouvoir à son successeur Haïdar al-Abadi sous la pression de la communauté internationale.
Conflit ukrainien, Kiev affirme que ses forces ont détruit des véhicules militaires qui avaient traversé la frontière de la Russie dans l'est de l'Ukraine. La présidence ukrainienne confirme donc les informations relayées par des médias britanniques, affirmant que des véhicules militaires russes avaient été aperçus traversant en Ukraine.
Et les autorités ukrainiennes disent aussi qu'elles ont commencé à inspecter le convoi d'aide humanitaire russe. Kiev redoute en effet que Moscou n'essaie d'utiliser ce convoi pour lancer une invasion ou réarmer les rebelles pro-russes qui ont subi des pertes récentes. De leur côté, les ministres de l'Union européenne exhortent la Russie à mettre fin immédiatement à toute forme d'hostilité près de la frontière ukrainienne.
Au Pakistan, des affrontements ont éclaté à Gujranwala après que des coups de feu ont été tirés sur le véhicule d'un chef de l'opposition. Le véhicule d'Imran Khan a été touché, mais il n'a pas été blessé, indique son porte-parole. L'opposant politique qui participait à une marche vers Islamabad était en route pour la capitale. Ayant Lahore pour point de départ, cette marche vise à destituer le Premier ministre Nawaz Sharif. Imran Khan affirme que ses partisans camperont à Islamabad jusqu'à sa démission et l'organisation de nouvelles élections. Quelques 25 000 membres des forces de sécurité gardent donc les rues de la capitale. Internet et les services mobiles ont été suspendus dans plusieurs zones.
Au Pakistan toujours, les talibans revendiquent les attaques d'hier soir contre deux bases aériennes à Quetta, dans la province du Balouchistan, signale l'AFP. Des hommes équipés d'armes automatiques, de grenades et de vestes explosives étaient à l'origine de l'assaut. 12 insurgés sont morts, selon les autorités.
Des milliers de personnes ont organisé des veillées à travers les États-Unis hier soir en souvenir du jeune adolescent noir non armé abattu par un agent de police à Ferguson dans l'État du Missouri. Sarah Diaby.
Des veillées de solidarité ont été organisées dans une centaine de villes, les manifestants observant une minute de silence en la mémoire de Michael Brown, 18 ans, et toutes les autres personnes tuées par la police. Par ailleurs, la police de Ferguson a annoncé vendredi que Brown, au moment de sa mort, était suspect dans un vol survenu dans un petit magasin peu de temps avant la fusillade. Il aurait volé des cigares. Le chef de la police, Thomas Jackson, a également identifié le policier qui a abattu Brown. Il s'agirait d'un certain Darren Williams qui occupait ses fonctions depuis 6 ans sans problème disciplinaire. Quelques minutes avant l'incident, il a répondu à un appel concernant un vol musclé dans le magasin. Selon la police, on dispose d'images d'une caméra de surveillance montrant Brown dans la boutique. Le gouverneur du Missouri, Joe Nixon, a ordonné à la police de l'État de prendre en charge le maintien de l'ordre à Ferguson. Le début de l'année scolaire a été reporté. Le FBI a ouvert une enquête.
Voilà pour le journal. Au micro, Morgane Guiriec et Bagassi Koura. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur La Voix de l'Amérique. On passe à la partie magazine de notre émission. Une épidémie largement sous-évaluée et qui se répand plus vite que la capacité actuellement mise en œuvre pour y faire face. C'est le constat dressé par l'OMS qui parle d'une totale défaillance des infrastructures. Bagassi Koura a joint à Genève Tariq Jasarevic, porte-parole de l'OMS. Il nous parle des efforts déployés face à l'épidémie d'Ebola.
On continue à apporter un soutien ensemble avec d'autres partenaires aux autorités sanitaires des quatre pays touchés pour essayer de mettre en place au plus vite possible toutes les mesures qu'on connaît nécessaires pour essayer de contenir l'épidémie.
Et vous avez déclaré notamment que les capacités déployées pour faire face à l'épidémie ne sont pas suffisantes.
Pour le moment, donc, on voit qu'il y a toujours des chaînes de transmission non identifiées. Il y a toujours donc, des cas qui sont répertoriés, mais aussi des cas dont on n'a pas de connaissances. Et c'est ça, en fait, ce qu'on a essayé de dire quand on dit que c'est peut-être le nombre de cas sous-estimé. Aussi, il faut dire que cette épidémie a d'autres aspects, des conséquences économiques, sociales, humanitaires. Et donc, il faut vraiment qu'on travaille tous et qu'on mobilise les ressources au niveau international pour venir en aide à ces quatre pays qui déjà n'ont pas des systèmes de santé très forts. Et en plus, donc, ils doivent faire face à cette épidémie maintenant.
Et cette situation est notamment aggravée par le fait que l'Ebola frappe dans des zones très, très reculées. Hein.
Voilà, donc c'est ça. Donc vraiment, pour essayer d'arriver à ces zones, il faut vraiment mettre en place des moyens logistiques. Il s'agit de zones très, très isolées. Il faut vraiment aussi travailler avec la population pour qu'ils comprennent qu'il faut absolument coopérer avec les autorités sanitaires. Il faut que les gens informent des cas suspects, des décès communautaires suspects pour qu'on puisse essayer donc d'apporter au plus vite possible des soins de santé aux personnes infectées parce que ça va augmenter leurs chances de survie. Aussi, s'il y a des décès communautaires, il faut s'assurer que les corps sont enterrés de manière sécurisée. Donc voilà, il faut faire tout ça pour qu'on essaye vraiment de contenir l'épidémie.
Voilà, c'était Arik Djassarevic, porte-parole de l'OMS.
Venons-en maintenant à ces inondations au Niger qui ont fait 12 morts et plusieurs blessés. Selon le gouvernement, on compte plus de 27 000 sinistrés. Toutes les régions sont affectées, hormis les zones très désertiques de Diffa dans l'est et d'Agadez dans le nord. Les autorités ont lancé un appel international à la solidarité en faveur des sinistrés. Pour faire le point sur les séquelles de la présente catastrophe, Jacques Aristide s'est entretenu avec le professeur Chérick Chaco de l'Université de Niamey.
En ce moment, le gouvernement a fait le point. C'est déjà une très bonne chose de donner l'information, mais aussi c'est une autre chose que d'avoir les moyens pour pouvoir y faire face. Je crois que le gouvernement a demandé la solidarité nationale et internationale. Le pays vit des épreuves difficiles. Vous savez, en dehors du fait que l'eau est la première ressource économique, étant donné que la population, la majorité de la population, plus de 85%, vit à cause de l'eau sous pluie. Donc, quand il n'y a pas d'eau sous pluie, c'est un problème. Mais quand il y a aussi trop d'eau causée par la pluie, c'est un véritable problème parce que ça détruit les récoltes. Et ça détruit aussi les habitations, ce qui va faire à ce que la population pauvre va dépenser une bonne partie des revenus à la réhabilitation de leur demeure et pour avoir le matériel perdu.
Le gouvernement a déjà mis plus de 200 tonnes de vivres à la disposition des populations touchées. Est-ce suffisant?
C'est insuffisant face à l'ampleur de la situation. Personnellement, j'avais été secrétaire permanent du système d'alerte précoce. Il y a une cellule de crise qui est logée au niveau de la primature pour assurer la coordination. Il est important d'abord de voir à trois stades cette question. La question d'urgence, il faut y faire face. Et le pays est confronté à plusieurs préoccupations. Je crois que ces prochaines années, il faut mettre beaucoup l'accent sur ces trois niveaux pour pouvoir juguler la situation. Dans la question du bien-être, il y a la pauvreté, le manque, il y a l'inégalité, mais aussi il y a la vulnérabilité. À ce niveau, les catastrophes constituent un facteur d'intensification de la vulnérabilité des populations pauvres.
Voilà, c'était l'économiste Chérifa Chako, joint à Niamey.
La Voix de l'Amérique au Niger sur Enfani FM à Niamey, Zinder et Agadez et sur Radio Dalol FM à Dongondouchi.
Cela fait des mois qu'ils ont fui de chez eux en raison de l'insécurité. Et pour la première fois, selon l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, la majorité des déplacés de Bangui veulent rentrer chez eux. Mais l'OIM souligne qu'ils ne disposent pas de moyens de le faire, leurs habitations ayant été détruites et leurs biens volés. Christiane Berthiaume est porte-parole de l'OIM.
Tous les mois, l'Organisation internationale pour les migrations fait une enquête auprès des personnes déplacées qui se trouvent dans les centres à Bangui afin de connaître leurs intentions. Est-ce qu'elles veulent rester dans les centres? Est-ce qu'elles veulent rentrer chez elles? Et ça, c'est une enquête qui est importante parce que ça permet de déterminer non seulement pour nous-mêmes, mais également pour l'ensemble de la communauté humanitaire qui se trouve en République centrafricaine, quels sont les besoins des gens. Parce qu'effectivement, si les gens disent « Non, nous, on a trop peur, on veut pas rentrer chez nous, on reste dans un centre », alors là, il faut essayer de planifier de la nourriture, des secours, etc. Ou alors au contraire, si les gens nous disent « Non, on veut rentrer chez nous », par contre, on rentre dans des endroits où beaucoup de choses ont été détruites. Donc, il faut que nous, les acteurs humanitaires, on fasse en sorte qu'ils puissent retourner chez eux dans des conditions respectables. Or, c'est la première fois que nous voyons que 80% des personnes déplacées qui se trouvent dans les centres ont l'intention de rentrer chez elles au cours du mois. Ça, c'est assez nouveau. Ça représente quand même une augmentation de 14% par rapport à l'enquête qui a été effectuée au mois de juin. Et l'enquête démontre par contre qu'il y a beaucoup d'obstacles, que si les gens veulent et souhaitent rentrer chez eux, il y a quand même des obstacles à surmonter. Et la raison principale évoquée par ces gens, en disant ce qui a retardé leur retour, c'est le pillage. 74% d'entre eux disent que ça ne va pas être facile parce qu'ils ont tout perdu.
Une bonne partie des déplacés en Centrafrique étaient des populations musulmanes. Et ce n'est pas vraiment ce qui les empêche de rentrer à Bangui. Ce n'est pas leur religion ou les craintes de tensions intercommunautaires. Alors, c'est plutôt le fait qu'elles ont été dépossédées de tout.
C'est ce que les gens nous disent, c'est qu'ils ont tout perdu. On leur a volé tout ce qui leur appartenait et ils sont retournés chez eux. Ils n'ont plus rien. Alors, enfin, pour nous, c'est un signal qui veut dire que bon, si ces gens veulent rentrer chez eux, il va falloir les aider à pouvoir recommencer leur existence. Il y a le manque de moyens financiers également est une des raisons qui sont invoquées. Les gens n'ont plus d'argent. L'insécurité aussi, mais ce n'est plus aussi important, ce n'est plus la condition ou l'obstacle principal au retour comme on pouvait le voir au début de la crise. Donc, il y a une espèce de sentiment de confiance. Les gens ne veulent plus rester dans ces centres, veulent retourner chez eux. Et le problème numéro un pour elles, c'est l'habitation.
Voilà, c'était Christiane Berthiaume de l'OIM qui était jointe à Genève par Camille Gros-Didier.
La Voix de l'Amérique en République centrafricaine à Bangui sur 101.7 FM.
Voilà, et on vient ici aux États-Unis suite de la controverse de Ferguson dans l'État du Missouri. Nous vous en parlions dans le journal. Le jeune africain-américain abattu par la police est suspecté de vol. Sa mort a entraîné 5 nuits de violence dans cette ville en périphérie de Saint-Louis. Ce nouvel incident entre la police et un noir américain illustre le malaise qui perdure depuis 2 décennies entre les deux camps. Pour un éclairage, Nicolas Pineau a joint Nicole Bacharan. Elle est historienne et auteure du livre « Les Noirs américains ». Des champs de coton à la Maison Blanche.
Les relations entre la police aux États-Unis et la communauté afro-américaine ont toujours été extrêmement difficiles. C'est allé de la période des années 60, des années 70, où dans les quartiers noirs, la police était vraiment perçue quasiment comme une force d'occupation, Ah, après, bon, il y a eu pas mal de méthodes, de programmes pour améliorer les choses, en incluant notamment des Afro-Américains dans les forces de police, mais néanmoins, le sentiment et la réalité aussi, que face à la police, face à la justice, face au système pénitentiaire, les Noirs sont beaucoup moins bien traités que les autres. C'est un problème absolument persistant.
Comme dans le cas de Trayvon Martin, il y a un an, Barack Obama a même commenté cette affaire.
Oui, et Barack Obama à plusieurs reprises est revenu sur sa propre expérience, sur l'expérience très particulière qui est celle d'être un homme noir aux États-Unis et d'être perçu instinctivement comme une menace. Barack Obama dit qu'il a lui-même vécu les gens qui traversent le trottoir, les dames qui resserrent leur sac à main, le clic, vous savez, des voitures que l'on verrouille quand on voit passer un homme noir non loin de là, et évidemment le risque d'être en danger face à la police. La police perçue non pas comme une force de protection, mais comme une menace.
On avait vanté une Amérique post-raciale après l'élection de Barack Obama en 2008. S'était-on trompé ?
La société post-raciale, elle existe aux États-Unis, mais elle n'est pas totale, bien loin de là. Elle existe en ce sens que tellement de barrières ont été franchies, que les mariages mixtes sont beaucoup plus nombreux, que le face-à-face entre noirs et blancs n'est plus du tout le même, puisqu'il y a aujourd'hui tellement d'hispaniques, tellement de populations venues du Moyen-Orient, tellement d'asiatiques. On est dans quelque chose de beaucoup plus dilué, si vous voulez, sur le plan des relations raciales. Mais en même temps, l'idée qu'il n'y aurait plus de racisme ou que la situation des Noirs serait totalement égale sur tous les plans à celle des Blancs, notamment, on est loin d'y être arrivé.
Voilà, c'était Nicole Bacharan, historienne et politologue américaine.
Le monde aujourd'hui sur la Voix de l'Amérique, c'est aussi les sports. Bagassi, en football, retour à l'entraînement de l'Uruguayen Luis Suarez, toujours suspendu.
Oui, l'attaquant s'est entraîné pour la première fois avec ses nouveaux coéquipiers du Barça. Souvenez-vous, Luis Suarez a été autorisé à s'entraîner par le tribunal arbitral du sport qui a maintenu l'interdiction de compétition jusqu'en octobre. Luis Suarez avait mordu l'Italien Giorgio Chiellini lors des matchs du dernier mondial.
Brazzaville remporte la Coupe du Monde du Congo.
Oui, les Diables Noirs ont remporté hier la finale face au CARA 2-0. Ce match s'est déroulé à la veille de la fête de l'indépendance du Congo dans un nouveau stade de 7000 places.
Allez, on termine en musique avec Roger Muntou. Salut Roger.
Salut Morgane. Elisio, alias Mr. Odyssey, est un auteur, compositeur, interprète d'origine capverdienne. Il connaît le succès en solo avec Melodia qui le propulse au sommet de la scène Zouk. On l'écoute ce soir dans Ne me laisse pas.
Je ferai le tour de la terre sans regarder en arrière. Ferai la pluie et le beau temps. T'aimer comme un roman, tous ces moments inavoués, t'es perdu à tout jamais, mais je ne connais pas l'amertume, je t'attends, oh, je t'attends, oh, yeah, yeah. Je braverai toutes les mers. Baby, baby.
Voilà, du zouk avant le week-end. Ainsi s'achève Le Monde aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Yemi Obadjimi a dirigé la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Au micro,
Agassi Koura
et Morgane Guiriec. On se retrouve la semaine prochaine.
Passez un excellent week-end.